pour continuer à nous écouter ce soir, ou well, tout cet après-midi jusqu'à 23h. Parce qu'après nous, ça serait le volet et aussi le concert chouette de Cute Nu. Du coup, c'est le Côté Châle. On est là chaque dimanche à 19h30 jusqu'à 20h. Du coup, à Cute Nu chaque dimanche, pas seulement celui-là. Et juste pour dire, avant qu'on commence, que si jamais tu veux nous contacter, tu peux nous contacter par courriel, par email, pardon, la-courte-échelle@riseup.net. Et aussi, si tu veux nous écrire, on va kiffer ça, du coup, bien sûr fait. C'est le Côte Échelle, Radio Galère, Friche de la Belle Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Du coup, c'est le Côte Échelle, Radio Galère, Friche de la Belle Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Et juste pour commencer, on va faire une tour de la table. Du coup, je vais juste dire mon prénom. Du coup, c'est Grania encore. Désolé. et du coup, on va passer. C'est Camille.
Salut.
C'est dans la technique. On est deux personnes. Je ne sais pas si tu veux dire coucou.
Bonjour.
Salut.
Et aussi, je ne sais pas, en face aussi, on est autre personne.
Salut.
Et coucou.
Et aussi à gauche.
Moi c'est Joël, on peut dire mon prénom. Salut. Ouais.
Et Mathéa encore.
Du coup, on est beaucoup là ce soir et on est hâte de lire la lettre de plusieurs personnes ce soir. Et comme la personne a déjà dit, tu cet après-midi, force à vous, tout le monde qui est enfermé ici en France et d'ailleurs. Et du coup, on va commencer par qui va commencer?
C'est moi qui vais commencer.
Allez.
On va commencer avec une lettre de Snow. La lettre s'appelle « Une sortie musclée avec les Eris ». Les Eris sont les équipes régionales d'intervention et de sécurité qui ont été créées en 2003 en réponse à des incidents survenus en détention. Ce personnel de surveillance de l'administration carcérale est chargé de prévenir et d'empêcher les éventuels renversements du rapport de force. C'est en cas de tension, terrorisme, agression, mutinerie, évasion, etc. qu'ils interviennent. Les équipes sont réparties sur les territoires métropolitains. Il en existe une pour chaque direction interrégionale et des services pénitentiaires. Les ERIS accompagnent également les personnes détenues, considérées comme ayant un profil sensible lors de leur transfert ou extraction judiciaire. Cette force de frappe, recrutée de façon quasi exclusive selon leurs aptitudes physiques, semble légitimer le franchissement d'un nouveau cap en matière d'usage de la violence en prison. C'est la force qui est donc employée par ces gardiens de l'ordre pour remédier aux crises. Cela témoigne de la manière dont la paix est pratiquée pour le dispositif pénitentiaire. Avant d'expliquer comment s'effectue un transfert, il convient de préciser qu'il n'y a aucune préparation, aucun préalable. Tout s'enchaîne trop vite, pour que nous puissions prendre conscience de ce qu'il est en train de nous arriver. C'est endormi que je suis réveillée à 6h du matin par un surveillant. Celui-ci m'annonce que je vais être extrait, et ce, dans une demi-heure. Sans plus de précision et dans la panique, je fais donc ma toilette et m'habille. Ce même surveillant me demande de le suivre jusqu'au greffe. Je le suis donc. En arrivant dans le bureau du greffe, surprise, 8 silhouettes, vêtues de noir et encagoulées, m'attendent. Ces personnes sont également dotées d'un fusil d'assaut. J'entends parler un homme. Je reconnais le mot « transfert ». Je me dis que cet homme est susceptible d'être le chef du groupe. À ce même moment, je comprends que je ne reverrai plus mes affaires laissées en cellule. Moi qui croyais à une extraction judiciaire... Moi qui croyais à une extraction judiciaire n'avais évidemment pas eu le temps de prendre mes affaires avec moi. Pas le temps de se lamenter avec les Eris, car tout va vite. Tout va trop vite. Je me retrouve dans la salle de fouille. Les instructions qu'on m'annonce sont fermes et précises. Il vaut mieux obtempérer immédiatement. En effet, que dire à des colosses surarmés et de tout noir vêtus, où il est impossible d'identifier leur visage. Je me retrouve très rapidement dans le costume d'Adam, pendant qu'un de mes agents tient dans sa main mon caleçon. J'ai juste eu le temps de voir ce que ce membre portait, une petite caméra GoPro. Celle-ci était fixée sur sa poitrine. Elle lui permet de me filmer à la première personne, c'est-à-dire de la façon la plus fidèle à sa perception. On m'ordonne de regarder en face de moi le mur et de donner ma jambe. On me la soulève violemment afin d'éclairer mon anus avec une lampe torche. Au même moment où je bougeais ma jambe, j'essuie une gifle grâce à une j'essuie une gifle grâce à une certaine souplesse. J'ai fait l'expérience malgré moi d'une humiliation criante d'injustice. Mon esquive était le moins que je puisse faire dans cette situation publique, puisque j'étais face à 3 agents. Je suis ensuite entravée pieds-mains avant de monter dans le van des Eris. Le voyage fut express et le règlement à bord du véhicule est totalitaire. Je n'ai pas le droit de regarder à travers les fenêtres du véhicule, mais uniquement le pare-brise en face de moi. C'est en voiture que j'ai donc appris que même la conduite de mon regard est dictée. D'ailleurs, on me l'enseigna accompagnée d'une gifle. Celle-ci fut plus vigoureuse que la précédente. La sortie avec les Eris fut de courte durée, non pas à cause de la courte distance, mais par la vitesse à laquelle les membres roulaient. Pas un feu rouge n'est respecté. Les accidents sont d'ailleurs fréquents lorsqu'on est promené par les Eris. L'état de la carrosserie le mentionne. J'avais envie de leur dire de ralentir, mais les 2 claques qui m'ont été infligées ont fait taire ma raison. Une fois arrivé à destination, et ce sans la moindre affaire, je suis pour la seconde fois de la journée fouillée, toujours à poil. À la différence que cette fois-ci, ce sera par les surveillants de la nouvelle prison. Je fus palpé à nu, comme si un objet pouvait être implanté sous ma peau. Cette première expérience aux côtés des Eris fut la plus traumatisante parmi toutes les fouilles subies. Je ne la souhaite à personne, vraiment. Être traité et ballotté comme une marchandise nous enlève toute notre humanité. Il semble d'ailleurs que l'abréviation Eris n'a pas été choisie sans aucun lien avec la mythologie grecque, puisqu'Eris est la déesse de la discorde. Elle est à l'origine des guerres, querelles et dissensions. La déesse Eris a des serpents qui lui sortent de la tête et du sang qui coule de ses habits. Elle tient une vipère à la main. Snow.
Ben, merci beaucoup pour cette lettre. C'est une lettre qui a déjà été lue à l'émission Brito, à Toulouse, il y a quelques jours. On passe un gros big up à Snow parce qu'il est possible qu'il nous écoute en ce moment. Ça fait 10 ans qu'il est en prison, il est en maison d'arrêt. Il est sur plusieurs affaires qui l'attendent en jugement. Il est rentré en prison à 17 ans. Ça fait 10 ans qu'il est en maison d'arrêt, donc 10 ans en cellule à 2 ou 3. Et ce transfert, c'est donc en arrivant dans une prison du sud-est de la France, pas loin de là où on est. On va pas trop dire où, parce que on va pas l'emmerder. Mais voilà, gros big up à lui, et on va bientôt lui écrire.
Ouais, merci pour nous écrire.
Et merci si tu nous écoutes, on t'envoie plein de force.
Et justement, dans ta lettre, tu parles des fouilles qui sont vraiment un moyen de pression de la paix, un moyen d'humiliation. Et on va lire une lettre d'un autre prisonnier qui raconte aussi une fouille.
Du coup, c'est une lettre qui date de mars 2023 de Kimi à la maison centrale d'Arles, et qui parle d'une fouille DPS, du coup, qui veut dire détenu particulièrement surveillé. Monsieur G, fouille DPS. Direction la douche, menottée dans le dos. Arrivé à l'intérieur, démenottage, mais entouré par 5 matons équipés comme Robocop. À poil. Encore une humiliation. Il me redonne mes fringues, m'ordonne de me plaquer face contre le mur et de ne pas bouger. Il sort à reculons, comme une colonne du raid. Mort de rire. Il m'enferme dans la douche le temps qu'il retourne dans ma grotte. Quelques temps après, remenottage à travers la trappe de la porte, puis retour en cellule. C'est le bordel monstre. Une tornade est passée dans mes lettres et mes papiers. 3 semaines avant, c'était le même scénario. 1 à 2 fois par mois, j'ai une fouille intégrale, raquette, nue, retournement de cellules en même temps. 11 ans que je tourne sur cette peine, mais Arles, c'est la pire centrale que j'ai faite. Pourtant, je suis passée par Condé, Vendin, Saint-Maur, etc. Mais ici, ils battent des records. Pour justifier les fouilles, c'est une DPS par mois, et s'ils soupçonnent un danger, ils peuvent te fouiller complet à n'importe quel moment. Et de 6h45 du matin jusqu'à 23h30. Pourtant, je suis au QI, dans ma grotte, 24h sur 24. Quand j'ai parloir, le proche te voit arriver et repartir menotté dans le dos et entouré de matons en Robocop. Des abus comme ça me rendent fou. Une fouille DPS comme les autres, c'est une putain d'agression. Je préférais me taper avec eux, ça ferait moins mal. Pendant une fouille DPS, ta grotte est littéralement démontée. Les prises électriques, les lumières, tout est démonté et passé au détecteur, et ton matériel IFI ou vidéo, ou tondeuse, etc. Tout est passé au rayon X. J'ai l'impression qu'ils cherchent un trésor. Les fouilles à nu, c'est horrible. Tu te dessapes devant 5 tortues ninja. Tu dois ouvrir la bouche, tirer la langue, passer les mains derrière les oreilles et dans la barbe, et puis secouer les parties intimes au cas où tu cacherais un truc derrière. Mais tu dois te plaquer face au mur, les jambes écartées, et tu dois lever un pied après l'autre. Ça remplace les flexions qui ont été interdites car indignes pour l'homme. C'est ouf les vis qu'ils trouvent, à croire qu'ils font des week-ends à débattre de ça autour d'une grillade. Comme tu peux... Comment tu peux mater les détenus à poil tous les jours et bouffer des chipots en été entre tortionnaires? Moi, ils me censurent sous des prétextes hilarants, morts de rire. Là, je viens de recevoir la proposition du maintien des DPS. Ils disent que j'ai des idées d'évasion en se servant d'un courrier qu'ils m'ont censuré à cause d'un dessin d'hélico volant au-dessus de la maison centrale d'Arles. C'est des ouf! Je parle de ça avec mes potos de l'envolée et ça m'aide parce que maintenant, ils commencent à me prendre avec des pincettes car ils voient qu'il y a du monde dehors. Et aussi, le baveux fait un taf de ouf. Mais ça n'empêche pas que j'ai aucune activité, pas de cours dispo, rien. La promenade, c'est que le matin à cause de la gestion. Et en plus, c'est un bunker, du coup, 24 heures sur 24, enfermé dans 9 mètres carrés. Ces derniers jours, ça s'est intensifié. Intervention dans ma grotte. Blessure auto-immune. Il fait référence à une automutilation sur les deux avant-bras. Ils m'ont remis dans ma grotte avec 4 matons équipés pour sécuriser le pompier Momo. Big up à toi qui est venu dans ma grotte pour constater une plaie profonde au bras. J'aurais dû me faire recoudre, mais j'ai refusé. Comme ça, les infirmiers et infirmières viennent me voir tous les jours pour me soigner la plaie. Ça me fait de la visite au QI. Le docteur m'a demandé pourquoi j'ai fait ça. Je lui ai répondu que j'ai pété les plombs, car pas d'activité pour stimuler un esprit ou une salle de muscu pour faire bosser le corps. Tu peux faire un peu en cellule. Moi, je fais des pompes, et avec un filet pour le linge, je l'ai rempli avec des bouteilles d'eau. Le cardio, c'est pas possible en cellule, mais à la puissance de frappe, on peut bien la bosser en cellule. Tu peux faire des tractions, des pompes, le matelas contre le mur pour la boxe, le cachot. Tu deviens pas un monstre de muscles, mais la puissance de frappe est là, mort de rire. La colère monte, je m'énerve un peu, je dis des choses, mais ils, l'administration pénitentiaire, ne sont pas d'accord. J'écris à l'envolée, mais c'est censuré. Mais j'écoute la rediff le jeudi, du 20h30 à 22h ici à Arles sur Radio Galère. J'écris à la courte échelle et parloir libre, mais tous mes courriers ne passent pas. Mais ce que je suis en train d'écrire passerait les murs de la prison et pourrait éclairer un peu les lieux sombres que sont les lieux d'enfermement, quels qu'ils soient. Quoi qu'il arrive, je reste la tête droite et la mâchoire serrée pour encaisser et peut-être riposter. Récemment, ils m'ont prolongé pour des faits de prise d'otage en 2014 et 2016, il y a 10 piges. On est géré par des frustrés et qui passent leurs humeurs sur nous les enfermés. Quand on a des proches et des poteaux qui te soutiennent, c'est un peu plus facile à encaisser. Mais ceux qui n'ont personne, c'est horrible. Alors je passe une petite dédicace à eux. Force, courage, honneur. Je suis passée par là, puis j'ai écrit à l'envolée et depuis j'ai un soutien de ouf. C'est pas des avocats ni des psys. C'est une association pour nous les enfermés et surtout de vrais humains, poteaux, même pour certains. N'hésitez pas. Ça fait quelques petites années que je vous connais et vous m'avez porté la force pour rien lâcher. Camille.
Yeah, ça fait plaisir.
Oui, merci encore pour cette lettre. Et juste parce que tu as mentionné plusieurs émissions dans la lettre aussi, on va juste te dire que l'envolée passe à Radio Gala, comme tu as dit, le jeudi, chaque jeudi à 20h30 jusqu'à 22h. Et sinon, au Parloir Libre, c'est samedi soir, c'est ça? À
19h-21h.
19h-20.
Avec le numéro de téléphone qu'on donne là, justement pour les dédicaces, c'est le même pour le samedi soir, tous les samedis soirs, pour lâcher des dédicaces.
Et la courte échelle, bien sûr, c'est toujours le dimanche soir, 19h30 jusqu'à 20h. Ce soir, on va tarder un peu, on va finir à 20h15, ou peut-être après, on ne sait jamais.
Ah non, il faut finir avant.
Non, on est 6 heures, Joël, on est 6 heures.
Bah, comme tu dis, 6 heures, c'est pas assez. Hein. Juste dans cette lettre, il parle de prise d'otage. Évidemment, quand on parle de prise d'otage, c'est évidemment... ce à quoi on l'accuse. En fait, une prise d'otage dans une prison, c'est quoi? C'est il est avec une brosse à dents ou au bout il y a un rasoir et il s'enferme dans une cellule avec un maton pour en fait dénoncer les conditions de détention dans lesquelles il est ou sa situation, etc. C'est lui arrivé deux fois dans les prisons de l'Est de la France et juste pour ça il a pris en fait des années de prison en plus. Prise d'otage, en fait c'est surtout l'État qui prend en otage les prisonniers, donc c'est un peu du foutage de gueule de parler de prise d'otage juste pour ça. Voilà.
Ouais, et comme on disait au début, Kémy, il est DPS, donc détenu particulièrement signalé, ou juste, comme on le dit justement souvent, détenu particulièrement surveillé. En fait, c'est quoi? C'est l'administration pénitentiaire qui décide elle-même d'inscrire des prisonniers et prisonnières sur un répertoire. Et il y a quelques critères qui ont été définis par une circulaire en 2012. Parmi les critères, il y a par exemple si tu as été condamné pour terrorisme ou pour criminalité organisée. Mais sinon, la plupart, c'est quand tu as essayé de te rebeller en fait, à l'intérieur de la prison, ou que tu présentes par exemple des risques d'évasion. Enfin, des motifs très larges qui permettent du coup à l'administration d'inscrire beaucoup de prisonniers et prisonnières en DPS. Et ça a des conséquences très fortes sur leur détention, notamment en termes d'isolement, puisque ça justifie de les placer dans certaines tôles qui peuvent être loin de leur famille, ou de les placer loin d'autres DPS et donc de les isoler.
Et aussi, c'est la surveillance nocturne aussi, chaque 2 heures, wow, au salon, l'Observatoire international de prisonniers, c'était chaque 2 heures, tu peux être...
Ouais, parfois toutes les heures. Et d'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour passer une pensée à Romain Leroy, un pote de Michael, justement, là, qui a écrit la lettre. Romain Leroy, il est mort le 9 août 2022, pardon, le dernier mois d'août, c'est ça, 2022, 9 août, parce qu'il était, alors lui c'était un protocole dangerosité renforcée, c'est un autre protocole un peu comme DPS, qui faisait que la nuit il était réveillé toutes les heures, et en fait ça lui a, comme ça a duré pendant 6 ans, 7, non 8 ans, pendant 8 ans il a eu ça, et en fait son cœur il a lâché, quand c'est impossible de dormir pendant des années, ben voilà, il y a eu une fissure de l'aorte et il est mort en prison à Moulins, et c'était un grand poteau de Mika. Donc une pensée à lui. On va lire une autre lettre de Mika.
Ouais. C'est une lettre qui parle notamment de la censure en prison.
Du coup, Maison Centrale d'Arles, mars 2023. Dans les prisons, tout est censuré, à commencer par la liberté d'expression. Nos courriers sont censurés pour des raisons ahurissantes. Moi, dernièrement, ils m'ont censuré un courrier parce que j'avais dessiné un hélicoptère, soi-disant que ça met en danger la sécurité de l'établissement, et parce que j'aurais des velléités d'évasion. Mort de rire. Je suis aménageable. Il y a aussi la censure entre détenus que l'on nous impose au QI, sous peine d'aller au cachot. Il y a aussi la censure sur leur cabine qui coûte la peau du cul. Dès que tu dis un truc qui leur plaît pas, ben la paix te coupe la communication. Parfois, ils suppriment même les numes. Ils veulent que l'on reste muet, invisible. Mais moi, j'ai fait le choix de me battre contre les abus de la paix. Quand nous les enfermés, on essaye de nous faire entendre notre voix. Ils essayent de nous museler. Les courriers sont bloqués et en plus, ensuite, ils viennent nous faire des coups tordus. Il y a aussi la censure des discussions entre tolards et tolards par la fenêtre. Car certaines onzes ont installé une plaque opaque devant les fenêtres, ce qui empêche les nuisances sonores pour des voisins de la zonze. C'est une censure à deux tranchants. Car ça nous empêche de discuter entre nous, surtout au QI. Mais en plus, ça nous censure sur la dignité, car en été, c'est invivable. D'ailleurs, un clin d'œil pour les tolards de Marseille, qui se sont révoltés contre ça. Force, courage et honneur à elles, et en particulier celles qui ont subi les représailles de la paix. Tenez bon les filles, vous êtes des lionnes. On nous censure aussi sur les courriers ou appels avec le baveux. La paix dit que c'est pas écouté, mais c'est du mytho. Ils ont un problème technique, mais bizarrement, ça arrive que quand je parle des trucs bizarres qu'ils me font. Ils font pareil avec la famille. Même avec les matons ou spip, il faut faire attention à ce que je dis. Parfois, quand tu fais une procédure contre la paix, ben, ils font exprès d'attendre que le délai pour faire appel soit passé. Comme ça, on peut pas faire appel comme il faut. La censure est à tout niveau en détention, mais surtout au QI. Je vous dis ça car je suis au QI et je subis pour de vrai la répression de la paix. Aujourd'hui, je suis allé voir un poteau au parlu, enfin, c'est lui qui est venu, ben... J'étais mal car il m'a vu débarquer avec 5 robocops et menotté dans le dos. On a passé un bon parlu, c'était la classe. Mais pour moi, c'est comme si je lui avais manqué de respect du fait de lui imposer à la vue un tel spectacle. Donc imaginez les détenus qui vivent ça devant leur maman ou leurs enfants. Respect pour les proches qui encaissent une telle vision. Ça fait maintenant 11 ans que je suis enfermé, dont 6 ou 7 ans au QI, en plusieurs fois. Donc je vis les choses de l'intérieur et je souhaite que le plus de civils possible prennent conscience de ce qui se passe dans les prisons de ce pays. Il y a même des tolards qui sont réduits au silence sous les mains des matons. Ce n'est pas un mythe. Les matons tuent des détenus en France. Personnellement, en 2014, si mes voisins du cachot n'avaient pas crié et si je ne savais pas boxer, les matons m'auraient pendu au cachot. Et ça, ils l'ont rendu au silence. Physiquement, ils mourront jamais. Donc maintenant, ils me gardent au QI pour des raisons débiles. Dernièrement, j'ai été prolongé pour des faits qui datent de 2014. Ils essaient de me briser psychologiquement mais je tiens bon, je lâche rien. Je sais pas si je me suis bien exprimée dans cette lettre, mais j'espère que ça pourra aider à comprendre ce que nous, les enfermés, nous subissons de la part de tortionnaires sous le couvert du ministère de la Justice. Car il y a aussi la torture physique et psychologique, violence. Ils me les ont faites à Saint-Maur. Menottée dans le dos, allongée au sol, sur le ventre, après une intervention dans ma grotte, ben ces chiens en ont profité pour m'éclater à un tel point que pendant 3 semaines, je ne me souvenais de rien. Je sais juste que j'ai été emmenée par le SAMU aux urgences, car j'ai fait 3 arrêts respiratoires. C'est l'infirmière qui m'a fait les premiers secours qui me l'a raconté. J'ai fait un recours, mais l'AP veut pas donner les vidéos frontales. Ça s'est passé dans une cellule, soi-disant les GoPro ont eu un bug pile à ce moment. Ça s'est passé en septembre 2022, et aujourd'hui encore je douille à l'oreille à cause du pénalty d'un menton. Et toujours pas d'hôpital. Kémy.
Un truc que je trouve hyper important dans cette lettre, c'est l'importance en fait du combat des autres prisonniers quand quelqu'un se fait tabasser. Là, c'est pas rien en fait quand il dit merci aux poteaux qui ont fait, enfin même pas aux autres prisonniers, c'est pas forcément ses potes, qui ont fait du bruit en fait au moment où il se faisait pendre au mitard par les matons. En fait, ça lui a sauvé la vie. Et voilà, on rappellera jamais assez qu'en fait les luttes collectives de prisonniers, c'est ce qui permet en fait de survivre dans l'enfermement.
Ouais, surtout que au mitard ou à l'isolement, il y a vraiment pas d'autres moyens en fait de savoir ce qui se passe, puisque comme il l'a dit, les caméras souvent elles sont à sens unique, c'est-à-dire que quand ça va dans le sens des matons, là ils ont les vidéos, mais quand il s'agit de tabasser des prisonniers prisonnières, c'est jamais le bon angle, ou alors il y a une coupure d'électricité comme c'est arrivé pour Idir Medeiros, ou le délai de conservation a expiré. Enfin bref, c'est jamais utilisable en faveur des détenus, et donc c'est les témoignages en fait des autres prisonniers prisonnières qui permettent de faire sortir la vérité.
On peut rappeler aussi que le téléphone en prison, c'est vraiment du racket, c'est 10 euros de l'heure. Voilà.
Ouais, et c'est bien sûr sur écoute, il faut déclarer une liste de numéros. Voilà. Et ça sert de chantage à l'administration pénitentiaire. Donc en fait, quand ça a été présenté comme une grande avancée pour rompre l'isolement des prisonniers prisonnières, bah en fait c'était quand même plutôt une vaste blague.
On va finir un cycle de 3 lettres de la même personne, donc une dernière lettre de Mika et après on passera au Baumette.
Du coup, la lettre, Mika l'a appelée « Confidence d'un DPS », je rappelle, détenu particulièrement surveillé, et elle date du 19 mars 2023. Dimanche, je me lève à 6h45, après 2 ou 3 heures de sommeil. Je suis bien, car la veille, j'ai vu mon poteau au parloir pendant 1 heure. Big up à toi, poteau. Je vais me laver le visage au lavabo, fais chauffer de l'eau pour le café, et quand je prends le pot de café, je vois qu'il est vide, je suis dedans. Je vais me faire une clope du matin, et là, bim, plus de tabac. Je m'assois sur mon lit et commence à penser à ma journée, 24 heures sur 24 dans ma grotte, car il n'y a aucune activité au QI d'Arles. En plus, j'ai une gestion de ouf. Le poteau l'a vu au parloir quand ils m'ont menotté dans le dos et eux étaient équipés de tenues par coup. Ils ont tellement le champ libre pour leur dinguerie qu'ils font devant les civils. Ils n'ont même plus besoin de le cacher pour le faire. Ben moi, c'est mon quotidien depuis un moment déjà. Donc ce fameux dimanche, la colère est montée, un peu plus que d'habitude. J'ai tapé à la porte, j'ai demandé à voir la chef, mais pas question de se déplacer pour ma gueule. Je commence à serrer dans ma tête, je me dis que c'est pas possible de rester sans activité et avec une telle gestion. J'appelle des gars par la fenêtre pour chiner une clope, histoire de me déstresser, mais rien, personne n'a rien. Je tourne en rond dans ma grotte toute la journée. Arrivé vers 19h, je vois un rasoir, et là, ni une ni deux, je mets 3 coups de lame sur le bras, histoire de faire déplacer les pompiers. Ils arrivent, prennent en photo mes plaies et me disent qu'il faut aller à l'hôpital pour recoudre. Je refuse car j'entends quelqu'un dire « Garde-le en psychiatrie ». Je pensais qu'après ce geste, la direction ou la chef allait se déplacer pour voir ce qui se passe, mais rien. Là, ça fait 1 semaine que ça s'est passé et toujours personne. Comment dois-je faire pour me faire entendre ? Il n'y a pas d'arrangement, Kémy.
Merci pour cette lettre, Kémy. Je trouve qu'elle montre bien... les conditions de l'isolement et à quoi ça peut pousser, et ça montre aussi que des fois il n'y a plus que le corps pour lutter quand on est à l'isolement ou quand on est en tôle, que ce soit par des grèves de la faim ou comme un outil d'évasion. Et ça me fait penser à un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Un peu de bon sens que diable, et qui parle de la prison à travers le prisme des sens et donc du corps. Et on rappelle qu'il est gratuit, il peut être envoyé gratuitement aux prisonniers et prisonnières. Donc si vous êtes intéressé par ce livre, vous pouvez nous écrire à La Courte Échelle, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Et pour celles et ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez le trouver en librairie et vous pouvez trouver aussi un podcast de La Courte Échelle sur Radio Galère qui parle de ce bouquin, si vous voulez en savoir plus.
Et désolé, les gens dehors, il ne sera pas gratuit pour eux. On va finir un peu cet ensemble de lectures de lettres avec une dernière lettre d'une prisonnière au Beaumet. Moi, je vous préviens, ça parle de violence en prison, donc c'est assez hardcore. Et quelqu'un veut présenter un peu le contexte ou c'est moi qui le fais ?
Tu peux faire.
Ok, je
si
le fais. Donc c'est une copine à qui on, en gros elle avait pris des médocs et du coup elle a été envoyée à l'hôpital. Et en rentrant de l'hôpital, il y a une surveillante qui lui a tapé dans la clavicule, une clavicule en fait qui a été cassée il y a longtemps parce qu'elle a été tabassée par des matons. C'était à Rennes, si je ne me trompe pas, ou à Réau. Et du coup, ça lui fait super mal encore aujourd'hui. Du coup, juste avec son bras, elle a repoussé la main de la matone. Et du coup, la matone, elle a simulé qu'elle se faisait tabasser. Et donc, elle a mis un compte-rendu d'incident. Et donc, compte-rendu d'incident, ça a des implications. Ça a des implications déjà sur... elle a fait les 3 jours de mitard, etc. Mais aussi sur les aménagements de peine possibles. Ça fait sauter les remises de peine, etc. Et donc, elle explique un peu... ce qui s'est passé suite à cette soi-disant altercation.
Merci, Joanne. CP de Marseille, le Beaumet, le 12 mai 2023. Ouais, bon, je vous explique. Ils sont rentrés dans ma cellule après le CDD 20 jours de confinement. Ils sont rentrés dans ma cellule se venger. Ils sont rentrés à 7. Ils m'ont tabassé à fond. Donc, j'ai la bouche éclatée, l'épaule éclatée,
un coquard,
et je crache du sang. J'ai demandé à voir le médical, il me dit que j'aille me faire une coulée. Qui ne fait pas te faire une bleue, donc c'est normal qu'il te fracasse. Donc tu vois, c'est la mort à la mort, à la mort, à la mort, à la mort. Voilà. Voilà ce qui me tend après la mort. Ce qui m'arrive à moi, la mort. En tout cas, j'ai eu votre courrier. Je vous remercie. Et voilà ce qui se passe, quoi. Mais bon, c'est l'officier qui fait rentrer tout ce qui va pas. C'est l'officier qui fait rentrer toute la drogue qui le donne à tous les détenus. Et c'est eux qui sont payés, qui rentrent dans la drogue. Et qui font la menace et qui fracassent tout le monde. Voilà. Allez, je vous laisse. Bisous. Bonne soirée. Merci pour nous écrire ce petit message.
Ouais, on l'envoie à plein de force. Il est possible, c'est pas sûr, mais que tu nous écoutes. Donc, on t'envoie un maximum de force. Et juste pour info, CDD, c'est commission de discipline. En gros, c'est l'équivalent du prétoire.
Oui, et fausse-toi, ouais, c'est le mode, la violence.
Ouais, les mitards, les QI et les violences pénitentiaires.
Ouais.
On va s'arrêter là pour La Courte Échelle pour ce soir, sauf si je me tourne.
Oui, faut laisser l'antenne, je crois.
Ouais. On va passer une musique. Alors, la musique, c'est Euslan Forêt, Les Méchants, parce que dedans, il dit les voitures noires, c'est les méchants. C'est une petite dédicace à la lettre de Snow qui parle des Eris. Les Eris, c'est ces voitures noires que vous voyez avec leurs gyrophares au niveau de l'habitacle. Les Eris.
Ouais, et la prochaine fois que vous verrez une voiture d'Eris, vous pourrez vous dire qu'il y a sûrement un prisonnier ou une prisonnière à l'intérieur.
Voilà. Ouais. Fossez-vous et merci pour tous les lettres. Et écris-nous, on va toujours lire les lettres dans la radio de Q. Écris-nous.
Et on va répondre.
Oui, on va répondre, t'inquiète. J'ai promis. Ciao, bonne soirée.
Merci.
Merci.
Comment ça va, on s'est déjà vu là-bas. Tu se rappellent de moi, c'est moi la grosse moula. J'étais chez Bran avec ta copine Anita. C'est pas Yves Montand qui m'a fait monter. Bandi, Khalis, Mani, valise, perquise, shérif, pardon, chéri, fêté, valise, Rotter, Venise. Soit tu me suis ou on se revoit dans 10 piges. Tu connais, tu connais, tu connais. En étant détendu, tout ce que j'ai compté. Je vais passer la repu dans le cul d'un poney. Au bigo, je ferais mieux de parler en japonais.
La grosse moula, poursuivi par les méchants.
Cité, j'en ai pas pour longtemps. Bébé, je t'aime et tout, mais j'ai besoin d'argent. J'ai v'là les sentiments, mais y'a déjà les méchants. Là, je prends la fuite, on se revoit dans 10 ans. Les méchants, les méchants, les méchants. Les méchants, les méchants, les méchants. Les méchants, les méchants, les méchants. Les méchants, les méchants, les méchants.
Dans mon département, ça veut ce qu'il est méchant. Les petits chez moi, viscère les clients. T'inquiète, même pas habillé récent. De temps en temps, je sors d'un que bon. La grosse moula, poursuivie par les méchants. Les méchants, les méchants. Grosse moula, voiture noire, c'est les méchants. La grosse moula, cette ville à la page des champs. Y'a les méchants, ouais, ouais. Il faut arbat, ouais, ouais. Y'a les méchants, ouais, ouais. Il faut arbattre, ouais, grosse moula. Y'a les méchants, y'a les méchants. Grosse moula, y'a les méchants. Grosse moula, y'a les méchants, y'a les méchants. C'est la grosse moula, y'a les méchants, y'a les méchants. C'est la grosse moula, y'a les méchants, y'a les méchants. Grosse moula, y'a les méchants, y'a les méchants.
Vous êtes toujours en direct donc dans l'émission 6 heures de direct contre les violences pénitentiaires, les quartiers d'isolement et les mitards. On va passer à une petite discussion sur les constructions de prisons. Et pour ça, on a Maria, invitée spéciale sur les constructions de prisons.
Salut à tout le monde. Avant de commencer, j'en profite en seconde pour justement dire bonsoir. En particulier à toutes les personnes privées de leur liberté qui nous écoutent et qui ne nous écoutent pas. En fait, le bonjour, je le passe à tout le monde. Quoi. Et une pensée particulière aussi à et beaucoup de solidarité et de rage aussi à côté des gens qui sont en grève de la faim au centre de rétention de Vincennes. Après la mort d'une personne tuée par le centre de rétention et les flics assassins. Et une pensée particulière aussi à toutes les personnes qui sont dans la rue aujourd'hui, à Lyon, à Amiens, justement aussi devant le centre de rétention de Vincennes, en lutte contre les violences pénitentiaires et l'isolement, et aussi à toutes les prisonnières et les prisonniers qui se battent toujours contre les violences pénitentiaires et l'isolement et qui ont le courage de le raconter. Juste, je voulais...
Ça, c'est dit.
Ça, c'est dit. Oui, je fais juste... Je voulais donner quelques informations sur qui est sûrement déjà passé ici dans cette émission et aussi dans d'autres émissions radio contre les prisons. Mais voilà, je voulais passer quelques informations sur le plan prison qui est appelé aussi plan 15 000 places, prévoit justement la création des 15 000 nouvelles places de prison dans tout le pays. Il s'agit d'un plan qui a été annoncé par Manuel Valls en 2016 et qui a été repris et confirmé par Macron et qui est, qui est déjà en partie en cours de développement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des nouvelles prisons qui sont en train d'être construites partout en France. Et le plan, en particulier, a l'objectif d'agrandir des prisons déjà existantes et construire une trentaine de nouvelles prisons. qui vont être surtout des maisons d'arrêt, dites-moi si je me trompe, mais des maisons d'arrêt et un centre de détention. Et voilà.
Et des structures d'aménagement à la sortie qui sont un truc particulier des maisons d'arrêt. Il y a déjà ça par exemple au Baumettes, donc les gens qui sont au Baumettes connaissent, c'est un truc où tu as plus d'activités et plus de possibilités de sortir plus vite, mais évidemment les gens qui ont le droit d'y aller, ben ce sont les personnes soit qui sont bien vues de l'administration pénitentiaire, soit juste en fait c'est une tôle de plus, et en fait du coup ça enferme des gens qui seraient dehors habituellement.
Oui, justement, il y en a une déjà en place au Baumettes, si on parle de la région quand même, de la du coin, à Montpellier. Et il y en a deux qui vont être construites, une à Avignon et une à Toulon. Et le plan prévoit, justement, comme je le disais tout à l'heure, de construire 7000 nouvelles places avant la fin de 2022 et les 8000 places restantes d'ici 2027, pour un total de 4 milliards d'euros dépensés par l'État pour ça.
Et après, il n'y a pas d'argent pour les retraites, quoi.
Voilà. Et je voulais juste me concentrer un seconde sur les arguments que l'État utilise pour légitimer ce plan-là. Et après, juste passer quelques informations sur les luttes qui sont en train de se mettre en place contre ce plan, et en particulier dans la région. Mais je vais le faire petit à petit. Alors, non, je pense que c'est intéressant. En vrai, je pense que c'est, comment dire, les arguments que l'État utilise pour légitimer ce plan prison. On parle de beaucoup de, comment dire, d'arguments qui sont toujours mis à l'avance pour justifier l'existence des prisons en général, et qui sont utilisés aussi par les gens pour légitimer l'existence des prisons dans notre société. Le premier argument est sûrement la surpopulation carcérale. Donc l'État dit on veut combattre la surpopulation carcérale, et donc c'est quoi la solution? On crée de nouvelles places dans les prisons. Mais c'est vraiment une grande blague, parce que des plans prison, il y en a depuis les années 90.
Et mais depuis qu'il y a des prisons, en fait.
Depuis qu'il y a des prisons, l'argument a toujours été celui-là. Et la solution, la conséquence a toujours été il y avait encore de la surpopulation et plus des gens enfermés. Donc c'est assez simple de démonter cet argument en disant en fait que... il ne s'agit pas de combattre la surpopulation carcérale, il s'agit plutôt de surenfermer la population à l'extérieur, et donc juste enfermer de plus en plus. Et cette histoire-là de la création aussi des nouvelles des structures d'accompagnement à la sortie, et de la mise en place de toute une série de mesures qui devraient accompagner justement à la réinsertion et tout, font partie de l'extension de tous ces outils que l'État met en place pour enfermer de plus en plus. Et là, je viens sur le deuxième argument que l'État utilise, c'est créer des conditions meilleures de détention et créer des alternatives à la prison, en créant des prisons.
Mais c'est des blagues à chaque fois, leurs arguments, c'est un truc de... Donc la prison, c'est une alternative à la prison.
Voilà. Ouais. Mais cet argument-là de l'amélioration des conditions des détenus, c'est vraiment un truc hyper fort que l'État et le gouvernement utilisent à chaque fois. Mais en vrai, ce qui se passe, et c'est un peu l'histoire aussi des prisons déjà existantes, ce qui se passe, c'est juste que, justement, il n'y a pas des alternatives à la prison qui sont mises en place, mais plutôt des alternatives à la liberté, donc des façons d'enfermer des gens. Et avec des outils très différents qui se basent beaucoup sur la différenciation, qui crée des structures de plus en plus différentes pour gérer mieux la différenciation entre prisonniers, et donc faciliter en fait le contrôle de la population carcérale, faciliter le contrôle, faciliter la gestion, faciliter le travail de maton qui voilà, ils peuvent contrôler mieux et donc tabasser plus, et limiter les possibilités de rencontre, de liens entre prisonniers, en créant des systèmes d'isolement de plus en plus forts dans la mise en place des nouvelles prisons. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Je vais donner un exemple, comme ça c'est un peu plus clair. Par exemple, quand il y a, après tu me corriges si je dis des bêtises, mais quand il y a eu la création des baumettes d'eau en 2017, l'argument derrière la construction des baumettes d'eau, c'était justement que les baumettes 1, c'était un lieu insalubre, et du coup il fallait améliorer les conditions des détenus et donc créer des espaces plus améliorés pour les détenus, par exemple en mettant des douches en cellule ou en mettant des fenêtres anti-bruit ou juste en remettant un peu de peinture sur les murs, je sais pas. Mais en fait, le résultat de tout ça, très souvent, c'est le fait que, par exemple, avoir une douche en cellule, ça veut dire que tu sors moins, tu as moins d'occasion de juste sortir de ta cellule et rencontrer d'autres prisonniers. Des fenêtres anti-bruit, on l'évoquait tout à l'heure, par rapport à l'isolement sensoriel, en fait, ça a un poids énorme sur justement être en lien avec les autres êtres humains qu'il y a autour de toi quand tu es dans ta cellule et tout. En fait, ne plus entendre quelque chose, ne plus voir quelque chose, c'est un truc qui a un énorme poids sur ton isolement. Et
je pense qu'il y a un autre truc qui se joue là-dedans, c'est en fait prétendre en construire des prisons propres ou je sais pas quoi, ça légitime le fait d'en faire plein. Moi, le truc du coup de peinture, ça me rappelle en fait les QHS, les quartiers de haute sécurité. Il y a eu plein de luttes des prisonniers dans les années 70 contre ces lieux d'enfermement et de torture, que les gens ont appelé la torture blanche, par exemple projet Nobel Peace, etc. Et en fait, ces quartiers de haute sécurité, qui au début étaient juste pratiqués contre les Algériens pendant la guerre d'Algérie, qui après ont été mis sur les prisonniers qui posaient des problèmes parce que c'était considéré comme des meneurs dans les prisons, les luttes de prisonniers, et Mérine et compagnie, là. Après ça, en fait, en disant non, mais en fait, ça n'existe plus, on a supprimé les QHS, en fait, ils ont légitimé ça parce qu'en fait, ils ont mis un coup de peinture, ils ont appelé ça quartier d'isolement et paf, en fait, ça s'est généralisé dans toutes les prisons. Avant, c'était dans quelques prisons, quelques centrales, et là, maintenant, en fait, il y a des quartiers d'isolement dans toutes les prisons.
Oui, voilà. Et cet aspect de l'isolement, je pense que c'est un peu central aussi parce que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui et des 6 heures de radio de la journée, en particulier d'aujourd'hui. Mais lutter contre l'isolement, je pense, c'est vraiment lutter aussi contre la possibilité que les conditions d'isolement qui sont mises en place dans certaines conditions à certains moments soient élargies dans un deuxième moment sur tout le reste de la prison, et la logique qu'il y a derrière l'isolement et les dynamiques de l'isolement peuvent être appliquées sur le reste des prisonniers de plus en plus. Et le fait et je pense que la construction des nouvelles prisons joue beaucoup sur ça, et souvent on s'en rend pas compte, peut-être les gens à l'intérieur s'en rendent compte bien plus que nous à l'extérieur, mais c'est un truc assez central que je voulais un peu mettre souligner. Après, je pense que là, on pourrait en parler beaucoup, mais je trouve un peu intéressant en général de faire quelques exemples de lutte qu'il y a eu contre la construction des nouvelles prisons ici, pas loin d'ici. Et du coup, je viens un peu sur la situation à Entraigues. Entraigues, c'est un petit village entre Avignon et Carpentras où il y a justement le projet de construction d'un nouveau centre de détention qui devrait être terminé d'ici 2025, si je ne me trompe pas. Et je spécifie qu'à dans le coin, il y a déjà Avignon.
Le Pontet.
Le Pontet.
C'est une maison d'arrêt, mais aussi il y a un quartier CD. Il y a un quartier CD. Du coup, c'est un centre pénitentiaire où il y a aussi des longues peines.
Voilà. Et là, sur le terrain, comment dire, dans la zone industrielle de Entraigues, qui s'appelle Le Plan, en partie spécifique de la zone industrielle d'Entraigue, il y a justement le projet de construction de cette nouvelle prison. Et depuis un an, et du coup depuis que ça a été annoncé, il y a des gens un peu de partout dans le coin qui ont envie de s'organiser contre la construction de cette nouvelle prison et qui sont en train de le faire. Et, il y a déjà eu plusieurs rencontres publiques sur le terrain et discussions publiques et moments de rencontres et échanges entre personnes qui sont contre la prison et qui pensent qu'on n'en vaut pas des autres. Et en particulier en juin, le week-end du 10-11, que c'est pas un week-end, 10-11-12-13-14.
C'est un grand week-end.
C'est une semaine. Et il y a justement le énième moment de rencontre et de lutte contre la construction de cette nouvelle prison. Et donc l'invitation, c'est un peu de venir. Et c'est justement, ce sera sur la zone, le terrain qui est censé héberger la prison. En particulier, les travaux sont pas encore commencés, comme c'est le cas par exemple des Baumettes, qu'il y a vraiment déjà un chantier en cours depuis un an, parce que Baumettes, la destruction des Baumettes a été des deux bâtiments qui.
Les Baumettes 1.
Des Baumettes 1 a été fait en 2021 et en 2022 ils ont commencé les travaux.
Et là, ça commence vraiment à être haut, quoi.
Ouais. Et à Entraigue, il n'y a pas encore beaucoup de travaux en cours, il n'y a pas le chantier en fait, mais on voit qu'il y a le terrain qui commence à être plat, ils commencent à enlever. Bah, déjà, ils ont exproprié le terrain aux propriétaires et ils ont commencé à réaménager un peu les routes autour et le terrain même pour préparer le terrain pour la prison. Et voilà, et du coup. Ben déjà, j'invite un peu tout le monde à lutter contre les nouvelles constructions des prisons, parce qu'une prison de moins, ça veut dire aussi un demain, lutter contre la construction des 15 000 nouvelles places, ça veut dire demain de ne pas lutter contre les places déjà existantes.
C'est plus facile de lutter contre la construction d'une tôle que pour aider à la libération de tout le monde.
Et aussi à un peu visibiliser et faire du lien entre les luttes. Il y a aussi des luttes à Toulouse contre la construction d'une prison là-bas. Entre les pratiques et les luttes qui ont été mises en place, il y a eu beaucoup cette dernière année d'aller à l'extérieur, d'aller foutre un peu le bordel ou interrompre ou interrompre les débats ou les présentations publiques des projets de construction et aussi saboter, viser les entreprises qui se font de la thune sur la construction des prisons qui sont un peu toujours les mêmes. Et j'en cite quelques-unes, mais après il y a un moyen de trouver toutes les informations. Et Eiffage, Vinci.
Puis aussi toutes les entreprises qui profitent des tôles qui sont déjà construites.
On peut et qui profitent en général de l'exploitation aussi dans le secteur du BTP, qui d'ailleurs, par exemple, c'est aussi des entreprises qui vont faire les chantiers des Jeux Olympiques, qui exploitent les sans-papiers. Comment dire, il y a plusieurs raisons pour cibler les responsables matériels de la construction aussi des prisons.
On a même déjà vu à Lyon une entreprise de BTP utiliser une main d'œuvre sans papier pour construire un centre de rétention, puis en fait ces personnes-là se sont retrouvées dans le centre de rétention qu'ils ont construit après.
Et donc j'arrête là juste parce que je voulais donner quelques informations, et je dis juste qu'il y a aussi tout un plan de construction de nouveaux centres de rétention partout en France. Aussi prévu, l'idée c'est de doubler la capacité des centres de rétention d'ici 2027. Et dans le coin, il y aura beaucoup d'écrans qui vont être construits. En particulier, l'annonce d'un CRA à Nice, un autre à Béziers, en plus de celui de Marseille, Nîmes, Sète et l'autre de Nice qui sont déjà en place. Donc voilà.
Ben, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et
d'ailleurs, juste s'il y a des prisonniers et des prisonnières qui ont envie d'échanger ou de, comment dire, raconter aussi leur point de vue et de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur par rapport à ça, un peu les retours qu'il y a aussi à l'intérieur, comment les nouvelles prisons sont présentées pour, même à l'intérieur, pour convaincre ou légitimer aux yeux des personnes déjà enfermées de bouger dans une prison encore plus enfermée, n'hésitez pas, vraiment on a besoin de lutter ensemble à l'intérieur, à l'extérieur.
Ouais, également les infos qui sont dures à trouver sur en fait les entreprises qui profitent des rénovations de prisons. Voilà, là, il y a 2 ans, il y avait eu un appel d'offres pour installer les filets anti-hélicoptères à la centrale d'Arles. Il y a 2 ans, pareil, il y avait un appel d'offres pour demander à une entreprise de BTP à ce qu'elle refasse les murs parce que les gens les avaient troués entre les cellules pour pouvoir échanger. Voilà, ce genre d'infos, ce sera intéressant d'échanger avec les gens qui luttent contre les constructions de tôles. Donc n'hésitez pas si vous nous écoutez et que vous avez des infos là-dessus.
Et merci.
On va terminer tous les 4 heures de blabla avec l'envolée. En fait, on va parler de la lutte des prisonnières au Baumettes et un peu de la censure de l'envolée. Et ensuite, on passera au concert. On va passer une musique de pause, non ?